Chapitre 6 La délivrance du péché. L'apôtre a montré que Christ est le chef ou tête d'une nouvelle race et que par son acte unique d'obéissance, la grâce apporte la justification et la vie à ceux de sa lignée, de sorte qu'ils sont capables de régner dans une vie qui est victorieuse du péché. Pour vivre cette vie, il est nécessaire d'être délivré de la domination du péché. Voilà donc le grand sujet de Romains 6, la délivrance pratique du croyant de la puissance du péché par le fait d'être mort au péché. Ce sujet est soulevé par la question de savoir si le croyant continue sous la puissance du péché dans son chemin à travers ce monde. L'apôtre répond catégoriquement non, car, dit-il, le péché ne dominera pas sur vous. Verset 14. En outre, non seulement il répond à la question, mais il montre aussi comment le croyant est délivré de la domination du péché. Avant d'examiner le chapitre en détail, il est bon de s'interroger sur ce qu'est le péché, et qu'est-ce que cela implique de demeurer dans le péché ou sous la puissance du péché. Le péché est défini pour nous dans la parole de Dieu comme l'iniquité, une marche sans loi, sans frein. 1 Jean 3, verset 4. C'est le principe mauvais de faire sa propre volonté sans tenir compte de Dieu, ou, en d'autres termes, c'est l'insoumission à Dieu. Ce principe mauvais est entré dans le monde par Adam, par un seul homme, il en est résulté un système appelé le monde, qui s'est développé sous l'entière domination du péché, de la volonté de l'homme. Le résultat de l'homme faisant sa propre volonté est dépeint en Romains 3, versets 9 à 19. Cela a rempli le monde de misère et de douleur et a mis l'homme sous la mort et le jugement. En outre, ce qui est vrai du monde, dans son ensemble, est aussi vrai de chaque individu. La misère de chaque vie individuelle provient de ce qu'on fait sa propre volonté sans s'occuper de la volonté de Dieu. Laissons Adam pour nous tourner vers Christ. Nous voyons alors un homme béni et parfait qui, dans ce monde, était entièrement exempt de la domination du péché. Le monde dans lequel il est venu était gouverné par le péché, par la volonté propre. Christ était gouverné par un principe entièrement contraire, celui de l'obéissance et de la soumission à la volonté de Dieu. En venant dans le monde, il avait devant lui la volonté de Dieu, car il pouvait dire « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » En traversant le monde, il pouvait dire « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Et encore « Je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Jean 5, verset 30 et Jean 8, verset 29. En outre, sur le point de quitter ce monde, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, verset 42. Ainsi, en Christ, nous voyons celui qui, du commencement à la fin de son chemin, a entièrement vécu pour Dieu ou à Dieu. Romains 6, verset 10 et 11. Quand nous voyons cette vie déployée en Christ, la vie vécue pour Dieu, elle est là dans toute sa beauté et sa perfection. Vue ainsi, elle devient très attrayante pour le croyant. Les effets extérieurs de cette vie figurent dans les évangiles où on voit le Seigneur au contact du monde, objet de l'opposition de la chair et du diable. La béatitude intérieure de cette vie, vécue pour Dieu, est placée devant nous dans le psaume 16 qui décrit le chemin de la vie. On y trouve une vie vécue entièrement pour Dieu, présentée dans toute sa beauté en Christ. Nous apprenons ce qu'est une vie de dépendance de la puissance de Dieu, de confiance en l'amour de Dieu, de sujétion à la volonté de Dieu. Psaume 16, versets 1 et 2. Une vie d'humilité qui trouve ses délices dans les excellents de la terre. Psaume 16, verset 3. Une marche dans la séparation du mal, psaume 16, verset 4, une vie qui connaît la satisfaction, psaume 16, verset 5 et 6, les directions, psaume 16, verset 7, le soutien, psaume 16, verset 8, et la joie, psaume 16, verset 9 à 11. Il n'y a jamais eu un pas à rectifier dans cette vie, jamais un acte à regretter, jamais une pensée à juger, ni un mot à retirer. Voilà alors une question. Une fois le croyant attiré par la beauté et la béatitude de cette vie manifestée en Christ, comment peut-il être délivré de la domination du péché afin de pouvoir vivre pour Dieu ou à Dieu dans cette nouvelle vie? En bref, la réponse est la suivante. Le croyant ne peut être délivré de la puissance du péché que par la mort appliquée à l'homme qui est sous le péché, et il ne peut vivre pour Dieu ou à Dieu dans cette nouvelle vie que par le soutien de Christ, l'homme vivant et ressuscité qui est mort au péché et qui vit à Dieu ou pour Dieu. Au début de Romains 7, la figure du mariage est utilisée pour présenter ce soutien. Versets 1 et 2, la mort au péché. Citation de l'Écriture. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Fin de citation. Le sujet de la mort au péché est soulevé à la suite de la déclaration de l'apôtre en fin de Romains 5, « Là où le péché abondait, la grâce a surabondé ». Cette déclaration conduit tout de suite l'esprit charnel à poser la question folle, pour ne pas dire méchante, « Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ?» L'apôtre rejette entièrement cette suggestion profane. Le croyant fidèle à la position dans laquelle Dieu a placé le chrétien ne peut pas avoir la permission de continuer à vivre dans le péché. Au cours de ce chapitre 6, l'apôtre va montrer comment le croyant est mort au péché, mais dès le début, il tient pour établi que la seule attitude possible pour le croyant par rapport au péché est de se tenir pour mort au péché. Ceci étant, il demande « Comment, nous qui sommes morts au péché, vivrons-nous encore dans le péché ?» Sa question ne suggère pas que nous ne devons pas vivre dans le péché, mais qu'étant morts au péché, nous ne pouvons pas y vivre. Le principe qui sous-entend sa déclaration est clair et évident, à savoir que nous ne pouvons pas mourir à quelque chose et en même temps y vivre dedans. Dans les versets 3 à 5, nous avons le baptême, une illustration de la mort au péché. Après avoir présenté dans les deux premiers versets le grand sujet du chapitre, la délivrance du croyant de la puissance du péché par la mort au péché, l'apôtre se sert du baptême, au verset 3 à 5, pour illustrer la position du croyant comme mort au péché. Verset 3. Citation de l'Écriture. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort? Fin de citation. Ceux d'entre nous qui ont été baptisés du baptême chrétien, c'est-à-dire baptisés pour le Christ Jésus, ont été baptisés pour sa mort. Dans la figure du baptême, nous avons été identifiés avec la mort de Christ afin d'avoir part ici-bas à la position dans laquelle sa mort nous place par rapport au péché et au monde. Le baptême est une figure de la mort et de l'ensevelissement. Il est évident qu'un homme mort en a fini avec la vie de propre volonté dans laquelle il vivait autrefois, et un homme enseveli a disparu aux yeux du monde où il vivait autrefois. Cependant, c'est une question de disparaître aux yeux du monde, et c'en est une tout autre de disparaître à ses propres yeux, autrement dit de ne voir plus personne sinon Jésus seul. La chose la plus difficile est de ne plus se voir soi-même, de ne plus voir l'homme que j'étais, l'homme qui ne vivait que pour lui-même. Quand Christ était ici-bas, il n'y avait rien de commun entre sa vie et la vie du monde. Sa vie était entièrement une vie d'obéissance à la volonté du Père et d'abnégation pour servir les autres en amour. La vie du monde est une vie de propre volonté et d'exaltation de soi. Par sa mort, Christ à laisser la vie à laquelle, chez nous, le péché est attaché, et par son ensevelissement, il a disparu aux yeux du monde. Par le baptême pour la mort, nous professons en avoir fini avec la vie du vieil homme à laquelle le péché est attaché, et par l'ensevelissement, nous professons être disparus des yeux d'un monde dominé par le péché. Verset 4. Citation de l'Écriture. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Fin de citation. Voici cependant un moyen pour aboutir à une fin. La délivrance d'une vie de propre volonté a pour but de pouvoir vivre une vie d'obéissance à Dieu, c'est-à-dire de marcher en nouveauté de vie à la gloire du Père. Cette vie est présentée en Christ ressuscité. Si Christ est mort à ce monde, il a également été ressuscité par la gloire du Père. La gloire manifeste ce qu'une personne est. La gloire du Père présente tout ce qu'est le Père. Le Seigneur Jésus, dans sa vie et à la croix, a pleinement fait connaître le Père dans tout son amour, sa sainteté, sa justice et sa puissance. Comme il avait pleinement maintenu la gloire du Père, il est devenu nécessaire à la gloire du Père de ressusciter Christ d'entre les morts. Tout ce que le Père est exigeait que celui qui avait maintenu sa gloire soit ressuscité d'entre les morts. En outre, être ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père exprime la grande vérité que Christ est sorti d'entre les morts dans une vie parfaitement appropriée à tout ce qu'est le Père. En Christ ressuscité, nous voyons un homme qui vit pour Dieu, ou à Dieu, dans une vie qui est à la satisfaction infinie du cœur du Père. Cependant, lorsqu'il est dit que cette nouvelle vie est manifestée en Christ ressuscité, on peut poser la question suivante. Christ n'a-t-il pas toujours vécu pour Dieu ou à Dieu ? Réponse. Personnellement, il l'a fait. Cela est tout à fait certain, et nous l'avons vu présenté en perfection au psaume 16. Il a parfaitement vécu pour Dieu ou à Dieu dans sa vie sur cette terre, et il vit parfaitement pour Dieu ou à Dieu en résurrection. Il y a cependant la différence suivante, qu'en résurrection, il vit à Dieu ou pour Dieu comme étant mort au péché, de sorte que nous pouvons aussi vivre à Dieu ou pour Dieu, ayant été délivré par sa mort. En résurrection, il vit à Dieu ou pour Dieu dans une position que le croyant peut partager avec lui. Verset 5. Citation de l'Écriture. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Fin de citation. Cette vie nouvelle que nous vivons ici-bas est conforme au modèle de la vie de Christ ressuscité. Si nous avons été identifiés avec Christ dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans celle de sa résurrection. Nous sommes identifiés avec sa mort pour mourir à tout ce à quoi il est mort, et nous sommes identifiés avec sa vie de résurrection pour vivre pour le plaisir de Dieu. L'apôtre ne dit pas qu'à l'heure actuelle nous sommes effectivement en ressemblance de sa résurrection, mais que nous le serons. La ressemblance complète de sa résurrection implique d'avoir des corps de gloire semblables à son corps glorieux. Mais avant d'avoir de nouveaux corps, nous avons la vie nouvelle qui s'exprime dans une marche nouvelle. La nouveauté de vie est vue dans une marche entièrement nouvelle pour ce monde, une marche dans l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Versets 6 à 10. Nous avons la mort avec Christ. Verset 6. Citation de l'Écriture. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Fin de citation. L'apôtre a fait référence au baptême pour illustrer la vérité que nous sommes morts avec Christ. Maintenant, il en vient au grand fait fondamental dont le baptême n'est qu'un symbole. Il dit « Notre vieil homme a été crucifié avec lui ». C'est un fait que la foi accepte sur l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre peut dire « Sachant ceci que… » C'est un fait que les croyants savent par la foi. L'usage ordinaire que nous faisons des mots peut nous aider à comprendre l'expression « notre vieil homme ». Nous parlons de l'homme blanc, de l'homme noir, mais dans l'utilisation de ces expressions, nous ne faisons référence à aucun individu particulier. Nous nous référons à une race de gens ayant certaines caractéristiques. Et, au vu de ce que tous ceux qui composent la race ont des caractéristiques similaires, la race peut être décrite par une expression individuelle. L'expression « vieil homme » ne fait donc référence à aucune personne en particulier, mais elle décrit un genre d'homme avec certaines caractéristiques. Ce genre d'homme, nous le savons, est la race déchue d'Adam, dont la caractéristique distinctive est la propre volonté. Notre vieil homme est alors une expression qui décrit tout ce que nous étions moralement comme hommes déchus, vivant une vie de propre volonté. En disant « notre vieil homme », nous reconnaissons que le vieil homme est notre ancien moi, notre ancienne vie. Cet homme qui vit une vie de propre volonté sans se soucier de Dieu ne veut pas agir pour Dieu. Pour nous convaincre du caractère désespéré de cet homme, Dieu a complètement testé le vieil homme par tous les tests possibles. Il l'a fait sans loi, sous la loi, sous la sacrificature, sous la royauté, et enfin par la présence de Christ en grâce. L'homme a échoué à tous les tests, prouvant ainsi que le vieil homme est entièrement mauvais et que tout espoir d'amélioration ou de réforme du vieil homme est vain. Dieu n'a qu'une seule façon de traiter un homme qui s'est avéré être irrémédiablement mauvais. C'est en mettant fin à la vie de l'homme par le jugement de mort. Les péchés peuvent être pardonnés, mais il ne peut y avoir de pardon pour une nature mauvaise. Elle ne peut qu'être condamnée et avoir sa fin. Ainsi, dès le moment où le péché est entré dans le monde, Dieu a prononcé la sentence de mort sur l'homme qui était sous le péché. Pour le croyant, ce jugement a été exécuté à la croix, en sorte que nous pouvons dire « Notre vieil homme a été crucifié avec lui ». À la croix, Dieu a agi avec le vieil homme selon ce qu'il méritait et selon les propres justes exigences de Dieu. À la croix, Christ a représenté notre vieil homme devant Dieu par procuration, de sorte que, quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Non seulement Christ a porté nos péchés, mais il a été fait péché. Il a été fait ce que nous sommes. Ainsi, notre vieil homme a comparu devant Dieu et a pris fin judiciairement à ses yeux dans le jugement de mort. Il devient donc évident que dans cette partie de l'Épître, il n'est plus question de la mort de Christ pour nous, mais de notre mort avec Christ. En outre, notre mort avec Christ répond non seulement aux saintes exigences de Dieu, mais elle a aussi en vue notre marche pratique. C'était afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. Ici, l'expression « corps du péché » fait référence au péché comme un tout, en contraste avec une quelconque manifestation particulière du péché. Nous avons tendance à penser au péché par rapport avec quelque faute particulière à laquelle nous sommes spécialement enclins et qui nous fait davantage ressentir la domination du péché. Peut-être serions-nous très contents d'être délivrés de la domination du péché sous cette forme particulière. Dieu, cependant, voudrait nous délivrer de la domination du péché globalement, non pas en partie seulement. Cette liberté ne peut être obtenue que par la base de ce que notre vieil homme, qui est sous le péché, a été crucifié avec Christ. Le péché, en effet, existe toujours, mais il n'a aucune puissance sur un cadavre. La mort annule sa puissance. L'effet final pratique est qu'étant mort au péché, nous ne devrions plus le servir. Verset 7. Citation de l'Écriture. Car celui qui est mort est justifié du péché. Fin de citation. Nous sommes délivrés de l'esclavage du péché par la mort. Il est clair que celui qui est mort est justifié du péché. Un homme mort n'a plus de volonté personnelle active. Il ne peut plus être accusé de volonté propre. Verset 8. Citation de l'Écriture. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. La mort pour le croyant est le chemin d'entrée dans la vie. Après donc avoir parlé de mort, l'apôtre se met à parler de vie. Il dit, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Au verset 9, il parle de Christ ressuscité d'entre les morts, et au verset 10, il dit, « En ce qu'il vit, il vit à Dieu. » Il est donc évident que la vie est le sujet de ces versets. En regardant à l'avenir, l'apôtre nous présente le résultat plein et glorieux d'être mort avec Christ. « Si, dit-il, nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Qui peut saisir la béatitude qui se cache derrière ces mots « vivre avec lui » Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en ce qu'il est devenu pauvre et a vécu avec nous, plein de grâce et de vérité. Ce n'était toutefois qu'un moyen pour arriver à une fin. La fin glorieuse est que nous vivions avec lui. Verset 9. Citation de l'Écriture. Sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Fin de citation. Ceci non plus n'est pas tout. Nous ne vivrons pas seulement avec lui, mais nous vivrons là où il vit, dans la sphère de la résurrection. C'est une région où la mort n'a plus aucun pouvoir. Verset 10. Citation de l'Écriture. Car, en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. Fin de citation. En outre, nous allons non seulement vivre avec lui et vivre là où il vit, mais nous vivrons comme il vit. Le verset 10 nous dit comment il vit. Étant mort au péché, il vit à Dieu. La sphère de la résurrection est une scène où Dieu est tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28. Dieu est tout, comme étant celui qui comble la vue, et Dieu est tout, en tant que source et origine de toute pensée et de toute affection qui s'épanche vers Dieu en louange et en adoration. Voilà en effet ce que sera vivre à Dieu ou pour Dieu. Il est vrai que Christ a toujours vécu à Dieu, ou pour Dieu, personnellement dans son chemin à travers ce monde. Mais tandis qu'il était ici-bas, il avait affaire au péché de tous côtés, et il a finalement souffert à cause du péché à la croix. Dans la sphère de résurrection, il n'a plus rien à faire avec le péché. Combien est donc bénie la perspective de la vie, la vraie vie, qui nous est ouverte dans ces versets. Vivre avec Christ, celui qui nous aime, vivre là où il vit, dans la demeure éternelle de la vie, et vivre comme il vit, entièrement pour le plaisir de Dieu. Verset 11. Se tenir pour mort au péché, ou se compter pour mort au péché. Citation de l'Écriture. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Fin de citation. La perspective de bénédiction qui s'ouvre à nous par la mort de Christ doit avoir un effet très pratique dès le temps présent. Regardant en arrière, la foi sait ce qui a été accompli sur la croix. Verset 6. Regardant en avant, la foi sait quel sera le résultat en gloire. Verset 8 à 10. Entre-temps, tant que nous sommes encore sur la terre, entre la croix et la gloire, le croyant se voit comme mort au principe d'iniquité. la vie sans loi, sans frein. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, et que Christ est ressuscité d'entre les morts et vit à Dieu, nous avons à nous tenir, ou à nous compter, pour morts au péché, et pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Nous nous considérons comme morts au principe de faire notre propre volonté, principe qui gouverne le monde autour de nous, et que nous retrouvons en nous, et nous nous tenons nous-mêmes comme vivants pour faire la volonté de Dieu, et comme liés avec Christ devant Dieu. Si nous étions effectivement morts, il n'y aurait pas besoin de nous tenir pour morts au péché. Si nous étions effectivement dans la gloire, il n'y aurait pas besoin de nous tenir comme vivants à Dieu. C'est justement parce que nous sommes encore dans un monde de péché et que nous ne sommes pas effectivement dans une scène échappant à la domination du péché que nous sommes appelés à nous tenir ou à nous compter pour morts au péché et pour vivants à Dieu. L'histoire de Méphibosheth a été utilisée pour faire ressortir la position du croyant dans un monde qui a rejeté Christ. Elle est probablement la plus parfaite illustration dans l'Écriture de ce fait de se tenir pour quelque chose, car elle permet non seulement de clarifier le sens de « se tenir » ou « se compter », mais elle fait ressortir également la puissance nécessaire pour se tenir pour quelque chose. On se souvient que David avait montré une bonté de Dieu à Méphibosheth à cause de Jonathan, et c'était là une image de la grâce de Dieu qui nous est parvenue à cause de Christ. 2 Samuel 9. Puis dans l'histoire du roi David, vint un jour où il fut rejeté par Jérusalem. 2 Samuel 15 à 18. Pendant ce temps-là, le roi David quitta Jérusalem et se trouva dans une maison éloignée. 2 Samuel 15 verset 17. Sens de Beth-Merkak. Voir la note. Méphibosheth, l'homme qui avait reçu la grâce de la part du roi, est laissé dans la ville en rébellion contre le roi. Son cœur ayant été gagné par le roi, il n'avait aucune sympathie pour la scène de rébellion qui l'entourait. Comment agit-il dans de telles circonstances? Nous lisons que Méphibosheth n'avait pas soigné ses pieds et n'avait pas fait sa barbe et n'avait pas lavé ses vêtements depuis le jour que le roi s'en était allé jusqu'au jour où il revint en paix. 2 Samuel 19, verset 24. Pendant le temps de l'absence du roi, il a agi d'une manière qui montrait qu'il se tenait lui-même pour mort à la scène environnante. Il y avait de l'agitation dans la ville. Des conseils se tenaient, une armée se mettait en rang, des officiers étaient nommés, mais Méphibosheth ne prit aucune part à ces scènes excitantes. Il se tenait pour mort à tout cela, car il dit « Toute la maison de mon père n'était que des hommes morts ». En outre, il se considérait comme vivant à l'égard de David, car il ajoute « Et tu as mis ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table ». Il reconnaît que, par ses liens à la maison de son père, la mort était sur lui, mais que, par ses liens avec David, il était remis en vie à la table de David. 2 Samuel 19, versets 24 à 28. Dans la puissance de l'amour pour David et dans la réalisation que sa vie était liée à David, il agissait d'une manière montrant qu'il se tenait ou se comptait pour mort à la scène autour de lui. S'il avait été effectivement mort ou s'il avait été effectivement avec David, il n'aurait eu ni le besoin ni même la possibilité d'agir ainsi. De même, pour les croyants, c'est dans la puissance de la vie que nous sommes capables de nous tenir pour morts à ce monde dominé par le péché. Dans les versets 12 à 23, nous avons le résultat pratique du fait de se tenir pour morts au péché. Verset 12. Citation de l'Écriture. « Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. » Fin de citation. Les résultats qui découlent du fait de se tenir ou se compter pour mort au péché sont placés devant nous dans le reste du chapitre. Premièrement, se tenir ainsi nous libère de la domination du péché dans nos vies pratiques. Cela signifie qu'on n'obéit plus aux convoitises liées au corps mortel. Trois choses sont considérées au verset 12, le principe mauvais du péché, ou la volonté propre, le corps mortel et les convoitises du corps. Le péché est la détermination à faire sa propre volonté en satisfaisant la convoitise, et le corps est l'instrument pour satisfaire la convoitise. Nous sommes encore dans ces corps mortels, et le principe du péché est encore en nous. Mais si nous nous tenons pour morts au péché et vivants à Dieu en Jésus-Christ, nos corps mortels seront pratiquement délivrés de la domination du péché. Voilà comment prend fin le règne du péché sur ces corps. Verset 13. Citation de l'Écriture. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Fin de citation. Un second résultat de se tenir pour mort au péché est que, étant affranchis du péché, les membres du corps n'ont plus à être livrés au péché, mais à Dieu. Si ces différents membres sont gouvernés par la propre volonté, cela veut dire qu'ils deviennent des instruments pour exercer l'injustice. Étant affranchis de la domination du péché, nous devons nous livrer nous-mêmes à Dieu, nous-mêmes, esprit, âme et corps, et nos membres en particulier. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, dit le sage. Écarte de toi la fausseté de la bouche, et éloigne de toi la perversité des lèvres, que tes yeux regardent droit en avant, pèse le chemin de tes pieds. Proverbe 4, versets 23 à 27. Qu'est-ce que cela, si ce n'est la façon de l'Ancien Testament d'exprimer l'exhortation du Nouveau Testament de se livrer vous-même à Dieu comme d'entre les morts étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice? Nous pouvons bien nous interpeller quant à ce que nous permettons dans nos cœurs. Imaginons-nous le mal contre nos frères? Qu'en est-il de nos lèvres? Les utilisons-nous pour dire du mal des autres? Qu'en est-il de nos yeux? Sont-ils utilisés pour regarder des scènes qui attisent la convoitise et excitent la chair? Qu'en est-il de nos pieds? Leur permettons-nous de nous amener dans des endroits où aucun chrétien ne doit se trouver? Si ces membres, et d'autres, sont utilisés à de tels usages, ils sont utilisés pour l'injustice sous la puissance du péché ou de la volonté propre, plutôt que pour la justice et le plaisir de Dieu. Verset 14. Citation de l'Écriture. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Fin de citation. Un troisième résultat de nous tenir pour mort au péché est que nous passons dès lors sous la puissance de la grâce qui soutient. Ce fait de nous livrer nous-mêmes et nos membres n'est pas le résultat d'être sous une loi qui nous impose des exigences, mais c'est le résultat d'être sous la grâce qui non seulement nous apporte la bénédiction, mais qui nous soutient et nous permet de surmonter. Nous sommes gardés par la grâce de Dieu. Un quatrième résultat est que nous devenons esclaves de la justice pratique. Versets 15 à 23. Premièrement, nous tenant pour mort au péché, nous sommes affranchis de la puissance du péché. Deuxièmement, affranchis de la puissance du péché, nous pouvons nous livrer nous-mêmes et nos membres à Dieu. Troisièmement, nous livrant à Dieu, nous passons sous la grâce de Dieu qui nous soutient. Quatrièmement, passant sous la grâce de Dieu qui nous soutient, nous montrons la justice pratique. Verset 15. Citation de l'Écriture. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Qu'ainsi n'advienne. Fin de citation. Cette nouvelle vérité de la justice pratique est introduite par la question « Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ?» L'apôtre anticipe par là le raisonnement de la chair, toujours prête à abuser de la bonté de Dieu et à pervertir la parole de Dieu. Si Dieu dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, la chair dit « Péchons afin que la grâce abonde ». Si Dieu dit « Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce », la chair dit « Alors nous sommes libres de faire ce que nous voulons ». Verset 16. Citation de l'Écriture. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Fin de citation. L'apôtre rejette entièrement cette suggestion charnelle. Il démontre que la question montre une ignorance totale du résultat terrible de se livrer au péché. « Ne savez-vous pas, dit l'apôtre, qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Nous livrant au péché, nous devenons esclaves du péché. Et toute nouvelle complaisance à l'égard du péché ne fait que forger un nouveau maillon de la chaîne qui nous tient sous son esclavage. Quelle considération extrêmement solennelle, tant pour le pécheur qui vit dans le péché que pour le saint qui s'écarte pour jouer avec le péché. En outre, si nous nous livrons au péché ou à la propre volonté, cela entraîne la mort ou la séparation entre l'âme et Dieu. D'un autre côté, si nous nous livrons par obéissance à la doctrine concernant la mort avec Christ, cela conduit à la justice pratique. Verset 17. Citation de l'Écriture. Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Fin de citation. Paul pouvait remercier Dieu de ce que les croyants à Rome, autrefois esclaves du péché, avaient effectivement obéi de cœur à la forme de doctrine qui leur avait été communiquée. Il ne dit pas simplement à la doctrine, mais à la forme de doctrine. C'était apparemment le baptême qu'il a déjà évoqué dans la première partie du chapitre. Ils avaient cru la grande vérité, ou doctrine, que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Ils s'étaient soumis à la forme de doctrine en étant baptisés pour la mort de Christ, pour avoir part à la position de séparation du péché et du monde dans laquelle la mort met le croyant ici-bas. Et dans leur pratique quotidienne, ils avaient continué à se tenir pour mort au péché et pour vivant pour Dieu, ou à Dieu, dans le Christ Jésus. Chez ces croyants, il n'y avait pas eu un simple assentiment de l'esprit à certaines vérités sans y porter d'intérêt personnel. C'était l'obéissance de cœur ayant appris combien ils avaient besoin des vérités qu'ils avaient crues et combien celles-ci les concernaient. Versets 18 et 19. Citation de l'Écriture. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice, pour la sainteté. Fin de citation. Ayant obtenu ainsi leur affranchissement du péché, ils étaient devenus esclaves de la justice, c'est-à-dire ils avaient été asservis à la justice. Cette expression « asservie à la justice » pourrait toutefois être prise comme impliquant un certain joug blessant avec la perte de toute liberté. L'apôtre prend donc soin d'expliquer qu'il parle simplement à la manière des hommes. Être asservi à la justice n'est pas un esclavage misérable, mais une heureuse liberté. Cependant, à cause de l'infirmité de la chair qui fait que nous avons de la peine à saisir la vérité, il utilise l'expression « asservi à la justice » ou « esclave de la justice » pour faire ressortir le contraste entre d'une part le résultat heureux d'être sous l'empire de la justice pratique et d'autre part le terrible esclavage que le péché impose à ses esclaves. Livrer les membres au péché, c'est pratiquement devenir esclave de l'impureté et développer ainsi un caractère d'iniquité qui augmente dans l'iniquité. Il mène d'iniquité en iniquité, ou à l'iniquité pour l'iniquité. En revanche, si nous livrons nos membres au service de la justice pratique, ou pour être asservis à la justice pratique, cela développera un caractère et une condition de sainteté. C'est ici la première fois depuis les versets d'introduction de l'Épître que l'apôtre parle de sainteté. Livrer nos membres comme esclaves à la justice conduit non seulement à la justice, mais aussi à la sainteté. La justice parle davantage d'actes extérieurement justes par rapport aux autres, la sainteté fait plutôt référence à la nouvelle nature et donc à ce qui est intérieur. Nous arrivons ainsi à un autre résultat de nous tenir pour morts au péché, c'est le développement de la nouvelle nature qui est sainte en pensée et donc séparée de l'esprit du monde environnant. Non seulement la justice est pratiquée, mais l'injustice est haïe. Versets 20 à 23. Citation de l'Écriture. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Fin de citation. L'apôtre conclut son instruction en soulignant le contraste entre leur état passé comme esclaves du péché et leur état présent comme esclaves de Dieu, ou asservis à Dieu. Esclaves du péché, ils suivaient leur propre volonté sans jamais penser aux exigences de justice. Une telle vie ne produit aucun fruit durable et agréable, mais seulement la honte et finalement la mort. C'était un gaspillage stérile de leur vie et des membres de leur corps dans une propre volonté qui les couvrait de honte et aboutissait à la mort. Maintenant, ayant été affranchis du péché et étant asservis à Dieu, ils produisaient le fruit de la justice pratique qui conduit à la sainteté, cette condition de cœur dans laquelle le mal est haï et Dieu est connu et goûté. Vivre pour Dieu ou à Dieu conduit à un fruit présent de justice et de sainteté et à un fruit futur de jouissance de la vie éternelle dans toute sa plénitude en gloire, où non seulement la puissance du péché ne peut jamais se faire sentir, mais où la présence du péché ne peut jamais s'immiscer. Ici, la vie éternelle est placée devant nous comme l'aboutissement d'une vie vécue pour Dieu ou à Dieu dans ce monde. Mais même ainsi, elle n'est pas assurée par le dévouement de la vie ici-bas. Elle est le don de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Le péché paie un salaire, mais Dieu donne des dons. Ainsi, la grâce de Dieu qui donne la bénédiction est maintenue. Il est donné un encouragement à vivre une vie agréable à Dieu, tandis que la pensée légale d'obtenir la vie éternelle comme la récompense d'un service est exclue.